France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le talent, il est partout. Le talent, c'est lui qui choisit où il naît. La grande différence, c'est ce qu'on est capable d'en faire au moment où il faut le développer.
C'est toujours très tentant de se dire qu'on est investi de quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est là où il y a le danger, parce que peut-être qu'on devient un peu trop négligent, on ne travaille pas autant.
J'ai eu mon premier coach qui me disait « Toi, tu pourras être super forte, mais aujourd'hui, il y a un truc qui t'empêche d'être forte, c'est que tu n'as pas la passion. »
Le talent, ça se construit. Le talent, ça se découvre. Il y a des gens, malheureusement, qui passent à côté de leur vie parce qu'ils n'ont jamais découvert leur talent.
L'été dernier, il a survolé les JO, enchaînant les records et décrochant 4 médailles d'or en natation. Quel est donc le secret de Léo Marchand ? Les médias ont raconté en détail le parcours du jeune champion, issu d'une famille de nageurs, à l'aise dans l'eau très tôt et parti s'entraîner aux États-Unis sous la houlette de Bob Bowman, le mentor de Michael Phelps. Alors à qui ou à quoi doit-il son talent ? À son patrimoine génétique, à son environnement familial, à la méthode de son entraîneur ou à son travail acharné ? On peut d'ailleurs se poser la question pour tous les grands champions, pour les artistes aussi. Chez ces personnalités exceptionnelles qui suscitent l'admiration par la maîtrise de leur discipline ou de leur art, maîtrise qui semble incroyablement naturelle, quelle est en réalité la part de l'inné et de l'acquis ? Peut-on identifier les ingrédients du succès et appliquer cette recette pour faire naître des vocations, stimuler la créativité, décupler les performances, hisser jusqu'à l'excellence ? La fabrique du talent, c'est un reportage signé Azaïs Perona. Bonjour Azaïs.
Bonjour Aurélie.
Alors il serait peut-être utile pour commencer de revenir sur ce mot un peu flou de talent. Dans le cadre de ce reportage, Azaïs, sur quelle définition du talent vous êtes-vous appuyée ?
Alors je me suis appuyée sur la définition donnée par la neuroscientifique Sama Karaki. Je vous la lis. Le talent désigne la maîtrise exceptionnelle de compétences, de savoir et d'aptitudes par un individu dans au moins un domaine de l'activité humaine, le plaçant parmi les plus performants de ses pairs. On entendra justement Sama Karaki dans ce reportage qui ira plus loin en détaillant les facteurs qui permettent de développer un talent. En tout cas, on voit bien à travers ces définitions que le talent se situe partout, dans tous les domaines, et je trouvais justement intéressant d'aller explorer les différents champs, de la musique au sport, en passant par le cinéma. Car si ces disciplines ne se rencontrent pas toujours, si les personnalités qui parviennent à se détacher, à briller dans ces domaines ne se côtoient pas souvent, elles ont en réalité des caractéristiques en commun. Ces personnalités exceptionnelles cochent plusieurs cases de la recette du talent. Des déterminismes sociaux, une rencontre décisive, des écoles de formation ou des pédagogies abouties.
Avec nous dans le studio de France Culture, Pierre-Michel Menger, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur au Collège de France. Vous avez notamment étudié les conditions du travail créatif et vous vous êtes penché sur cette notion de talent. Mais nous allons d'abord écouter ensemble le reportage d'Azaïs qui commence avec le témoignage d'un compositeur et directeur artistique dont la voix semblait tracée depuis sa naissance, voire même avant, Greco Casazzu.
Tous ces morceaux-là, c'est des morceaux, si je les ai mis là-dedans, c'est parce que quand je les retrouve, ils sont très proches de ce que j'ai eu envie de faire. Donc par exemple, celui-là, ça s'appelle Une histoire vraie ou Une histoire vraiment vraie. C'est un documentaire sur John Huston. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Alors je m'appelle Greco Casadesu, je suis compositeur, conférencier et évidemment je porte un nom qui illustre pas mal des carrières de créateurs, notamment beaucoup de musiciens, mais pas seulement, puisque dans ma famille il y a également des acteurs, des actrices, des peintres, beaucoup de gens qui sont liés à des projets artistiques.
Il y a des artistes, des musiciens depuis combien de générations ?
Alors, la naissance au niveau artistique de la famille provient du désir de mon grand-père, Luis Casazzu, qui était musicien autodidacte, qui jouait du violon, de l'alto, de la mandoline, de la guitare, et qui a décidé que tous ses enfants feraient une carrière artistique. Alors, il y en a eu 9, quand même. Il y en a 8 qui ont fait une carrière artistique avérée.
Donc vous avez baigné dans cet univers musical depuis votre plus jeune âge ?
Alors, bien avant de naître, on m'a fait ressentir les vibrations musicales, puisque ma mère, qui était également une interprète, clavecin et piano, n'hésitait pas une seule seconde, lorsqu'elle était enceinte de moi, aller au concert et se dire « mon fils sera sans doute un génie, il faut que je l'accoutume à tout ce qui est la belle musique ». Alors, mes deux parents, donc mon père et ma mère, ont décidé que j'étais sans doute le petit génie qui allait révolutionner le monde de la musique. Et heureusement, je me suis aperçu que ce n'était pas le cas.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on n'est pas génie du jour au lendemain. D'abord, je ne crois pas à l'insufflation des bonnes fées ou de l'ingrédient divin qui vient nous pénétrer et nous donner quelque chose qui est un plus particulier. Je pense beaucoup plus que nous sommes concernés lorsqu'il y a justement une espèce de déclinaison, comme dans notre famille, de gens qui ont des réussites avérées comme artistes. Il y a beaucoup plus l'inconscient collectif qui joue, il y a évidemment l'apprentissage, il y a l'environnement, c'est très important et ça j'ai pas pu y échapper. Et puis après il y a eu plusieurs phénomènes qui sont intervenus, évidemment la pédagogie qui n'a pas été forcément la plus fructueuse, la pédagogie de mon père n'a pas été la plus fructueuse car je pense qu'il m'a même à un moment dégoûté du violon, instrument auquel il avait tenté de m'initier à l'âge de 2 ans et demi. Je ne vois pas très bien comment ça aurait pu marcher cette histoire-là. Après, bon, y a eu des événements familiaux liés à un divorce qui ont été assez terribles. Et mon père, un jour, a décidé que, puisqu'il n'y avait pas de chanteur dans la famille, eh ben, je serais chanteur, chanteur lyrique, évidemment. Sauf que je n'avais pas du tout, du tout une voix qui était susceptible de faire une reconnaissance d'un public large à ce niveau-là. En plus, je n'avais même pas mué quand il avait décidé ça. Donc, c'était déjà plié d'avance. Et ce qu'il a fallu, quand même, c'est que, au fur et à mesure que j'avançais dans ces désirs bien marqués de mes parents et surtout de mon père, il a bien fallu un jour que je comprenne que c'était à moi de choisir. Et si à un moment donné je me suis vraiment posé la question de savoir si je devais faire de la musique, j'ai été rattrapé par celle-ci, qu'on le veuille ou non. Alors ça n'a pas été toujours très facile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un homme heureux d'être musicien, surtout compositeur, dans un domaine que j'ai choisi par une volonté qui était la mienne de m'intéresser à la musique à l'image. Donc je me suis fait tout seul. Il a fallu que je naisse dans une famille pour renaître comme élément individuel. Et là, il y a une déclinaison avec quelque chose d'un peu plus rythmique, etc. Est-ce que j'ai reçu un don ? En fin de compte, en naissant dans cette famille, c'est une question que je me suis posée et je n'y ai pas répondu tout de suite. C'est toujours très tentant de se dire qu'on est investi de quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est là où il y a le danger, parce que peut-être qu'on devient un peu trop négligent, on ne travaille pas autant, je vous au travail une énorme considération, parce que je pense que le travail est l'aboutissement d'un certain nombre de facteurs qui sont liés à la créativité, et sans travail, on n'a pas du tout le même résultat que si on s'emploie à travailler. Et donc, le jour où j'ai compris que, après tout, j'étais peut-être simplement un élément inquidam, un élément lambda, mais que j'avais cette qualité d'avoir reçu des choses qui étaient juste au niveau de la transmission de l'environnement, je pouvais en faire quelque chose en le faisant proliférer, en le faisant évoluer. En fait, entre l'inné et l'acquis, je pense que j'ai réussi à bien me fabriquer avec tout ce qui m'a été transmis et je me suis beaucoup enrichi en faisant le tri de ce qui m'a été transmis et en le reproduisant à ma manière, ce qui est le cas en général de la vocation artistique. Un artiste, c'est pas forcément un métier, c'est un état. Et quelque part, on est comme des éponges. Donc, on va chercher ce que l'univers nous procure et on le redistribue à notre manière. Et c'est peut-être ça que j'ai réussi à faire, cette redistribution qui est la mienne et qui peut s'identifier à quelque chose de particulier ou d'exceptionnel. Mais c'est pas parce qu'elle est exceptionnelle qu'elle est innée.
Ok, qu'est-ce que je veux dire, 12 fois 45, 30, toi tu fais la même chose, mais en demi-squat.
D'accord.
Et pour pas solliciter, trop tirer, tu prends un petit...
Allez Fifi, allez
Bonjour, alors moi c'est Philippine de la Bigne, je fais du demi-fond, je suis spécialiste du 1500 mètres, 800 mètres et aussi 5 km route, je fais aussi un peu de cross et à côté de ça je suis élève avocate et je suis spécialisée en droit du sport.
Issue d'une famille favorisée, où la pratique sportive n'a jamais été valorisée, contrairement à la réussite académique, c'est le hasard des rencontres qui a permis à Philippine de la Bigne de découvrir sa discipline. Aujourd'hui âgée de 26 ans, ce n'est que tardivement qu'elle a commencé le haut niveau à l'âge adulte.
Déjà, je viens d'un milieu qui n'est pas du tout sportif. Je pense qu'on pourrait qualifier mes parents même de asportifs. Donc, ce n'était pas du tout présent dans notre culture ou dans mon éducation. Mais mes parents, ils ont quand même été contraints de me faire faire du sport petite parce que j'étais pas hyper active, mais j'avais quand même un besoin de me dépenser qui était plus important que les autres enfants. Et comme j'avais des difficultés à rester assise à l'école, ils ont été obligés de m'inscrire au sport. Mais c'est pas l'athlétisme qui est arrivé en premier. Ma mère a d'abord essayé de me faire faire de la danse classique, pensant que j'allais devenir un rat de l'opéra. Mais c'était pas très concluant parce qu'en fait en danse classique la seule chose dans laquelle j'étais bonne c'était le pas chassé et la diagonale où il fallait trottiner ce qui durait 30 secondes à peu près dans la séance de danse classique. Donc j'ai rapidement arrêté et ensuite je suis allée faire de l'omnisport avec mon école, donc c'est-à-dire que je faisais plein de sports deux fois par semaine, donc je tournais un peu et les coachs me disaient déjà que je courais plutôt bien. C'est vrai que dans tout ce qui était endurance, j'étais plus présente que les autres élèves. Mais c'est vraiment quand j'ai fait du badminton, parce que le badminton, ça a été finalement le sport où je me dépensais le plus et qui était très cardio, donc je m'y retrouvais bien dans ce sport et je voulais vraiment faire de la compétition. Et c'est au moment où j'ai dû changer de coach que voilà, j'ai demandé à mon coach s'il pouvait me conseiller pour trouver un autre club de badminton. Et c'est lui qui m'a dit « Non mais arrête, va faire de l'athlétisme ». Et moi, je comprenais pas bien parce que je voulais pas spécialement courir sans rien faire. Ça m'attirait pas plus que ça. Donc, je me suis dit, pas très drôle ce sport. et aussi, un autre coach de tennis, j'avais fait un peu de tennis, m'avait dit la même chose. Donc, c'est un peu contrainte et forcée que je me suis inscrite à l'athlétisme. Mais il m'a fallu du temps pour moi développer cette passion. Et j'ai eu mon premier coach qui me disait, et ça m'a marqué, ça marque encore, il me disait, toi, Philippine, tu pourras être super forte, mais aujourd'hui, il y a un truc qui t'empêche d'être forte, c'est que t'as pas la passion. Et je me suis dit, waouh, il a raison. Et depuis, quand même, je me suis de plus en plus investie. Et aujourd'hui, je pense que je peux lui répondre que j'ai la passion pour ce sport.
Qu'est-ce qu'il a fallu comme ingrédient pour en arriver là ?
Je pense que j'ai eu la chance de trouver mon coach actuel du Stade français. Parce qu'en fait, quand j'ai rejoint ce groupe, j'ai vraiment vu des personnes qui s'investissaient, qui s'entraînaient tous les jours. Je me suis dit... Mais à côté, je suis ridicule. Enfin, je veux dire, oui, faut travailler pour être très bon. Et ça m'a beaucoup inspirée. Et ce coach, il m'a petit à petit, il m'a apporté une rigueur, il m'a mis dans le haut niveau. Donc les choses sont arrivées par étapes. Je ne m'entraînais pas du jour au lendemain 7-8 fois par semaine. Mais vraiment, il m'a permis d'avoir cette rigueur, de progresser petit à petit. Et c'est de voir les autres et d'avoir un réel groupe. Parce qu'avant, je n'avais pas de groupe d'entraînement et d'amis soudés. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'aussi j'adore ce sport, c'est certes parce que je progresse, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui on est un vrai groupe au Stade français et c'est vraiment le collectif, je trouve, qui a fait que je suis allée aussi loin. Parce que si au début j'ai eu du mal à me mettre dans l'athlétisme, c'est parce que j'étais très seule. Dans mon milieu, il n'y avait personne qui faisait du sport. Il n'y avait pas mes parents. En fait, c'est le fait d'être seule, et quand on est seule, on n'y arrive pas, il faut d'autres gens. Et là, j'ai un peu, au Stade français, retrouvé une autre famille. C'est pour ça aujourd'hui que je suis très investie.
Que ce soit dans le sport ou la musique, quel rôle jouent les prédispositions génétiques et les déterminismes sociaux dans l'avènement d'un talent ? C'est une question à laquelle s'est intéressée la docteure en neurosciences Sama Karaki.
Là, je tombe sur la partie qui m'a pris le plus d'énergie, qui est de revenir...
Dans son appartement parisien, elle extrait de sa bibliothèque son livre paru il y a un an, intitulé « Le talent est une fiction ».
travers...
Alors, il y a deux façons de comprendre le terme talent. On peut le comprendre comme étant la description d'une compétence dans le présent, en considérant qu'une personne maîtrise une compétence à un niveau supérieur à ses semblables. Et on peut aussi le comprendre comme étant quelque chose qui est présent déjà dans le passé et qui expliquerait cette performance, donc comme un potentiel.
Donc le talent existe à l'origine ou est-ce qu'il est créé ?
Alors ce qui existe, ce sont en fait des prédispositions qui ne déterminent pas mais qui peuvent prédire certains aspects phénotypiques ou en quelque sorte ce qui apparaît chez l'individu. Mais le problème, c'est que quand on pense à ces prédispositions, on les mentionne souvent quand on est en train de parler de compétences très complexes, comme les compétences intellectuelles, artistiques. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas considérer qu'il y a une prédisposition qui explique les phénomènes, parce que ce sont des phénomènes qui sont déjà au niveau génétique polygéniques. Pour arriver, par exemple, à un talent musical, il faut penser à la mémoire vive, à la coordination motrice, au traitement auditif, à la capacité d'automatiser, à même à des prédispositions liées à la forme physique des doigts ou du corps en général. Donc c'est très complexe pour que l'on puisse le renvoyer à une position sur notre génome. Et en plus de cela, on n'est même pas en fait dans la complexité de tous les facteurs environnementaux, sociaux et les accidents de la vie qui vont venir interagir avec ces prédispositions d'origine pour en faire le produit que nous observons. Et donc en fait, ce que je veux déconstruire dans mon travail, c'est le fait qu'il n'est pas possible de tirer un lien, une ligne droite entre ce que nous avons dans nos prédispositions génétiques et ce que nous exprimons comme compétences complexes, multiples, très éloignées de notre biologie.
Quels sont du coup ces différents facteurs extérieurs qui vont venir s'additionner ou compléter des prédispositions génétiques, intellectuelles, etc.
Alors peut-être le facteur le plus écrasant qui peut permettre à une prédisposition de s'exprimer et d'être développée, c'est quelque chose que nous ne choisissons pas, c'est le foyer dans lequel nous sommes nés. Dans ce foyer, il existe pas seulement des parents, mais avec ces parents, il existe aussi tout ce qu'ils ont comme capitaux économiques, symboliques, culturels, sociaux, territoriaux. Donc en fait, ce qui fait que les premières expériences de la vie vont être enrichies ou pas par ce qui nous a été présenté sans l'avoir choisi. Et même que ces facteurs qui ne sont pas dépendants de l'individu vont aussi en fait influer sur sa motivation, sur ses désirs. Ce qu'on pense être très individuel est aussi façonné par ces premières expériences que nous n'avons pas choisies. S'ajoutent à cela les expériences du hasard, enfin dues au hasard, les rencontres, les amitiés, les regards qui vont être portés sur l'individu, les amours, les échecs, les accidents des fois que le corps peut subir, que la santé peut subir et qui créent des expériences de solitude, peut-être de contemplation et donc qui vont permettre de se centrer sur certains aspects de la vie plutôt que d'autres et qui permettent de développer ou d'abandonner certains intérêts. Donc tout cela, je peux le résumer en des prédispositions génétiques qui ne viennent pas s'ajouter, mais qui viennent interagir d'une façon très complexe avec tous les facteurs environnementaux que j'ai cités. S'ajoute à cela l'expérience subjective, intime du monde. Et en fait, tous ces éléments sont très compliqués à démêler, mais les études vont par exemple nous montrer que si je dois mentionner un des facteurs les plus écrasants, ça sera le statut socio-économique. Mais ce n'est pas par hasard, c'est parce que ce statut peut prédire la présence d'enrichissement, la présence de disponibilité pour que ce potentiel d'origine puisse être développé, et la qualité de ce que le corps va vivre en termes de nourriture, en termes de repos, en termes d'environnement sain pour pouvoir s'exercer, et en fait en termes d'anxiété, qui va créer d'absence d'anxiété, qui va permettre en fait un environnement stable. Et cet environnement stable est très propice au développement des compétences.
Un, deux, trois, et...
Paris, dans une ancienne école primaire, la maîtrise populaire de l'opéra comique s'est installée en 2016. Dès le CM1 pour les plus jeunes, des enfants recrutés sur concours y apprennent les arts du spectacle. Les horaires sont aménagés. En classe de 6e, Samuel partage son temps entre les cours académiques et la pratique artistique.
En fait, nous, par rapport à, par exemple, notre emploi du temps, du coup, on a l'école, les matières français, maths, voilà. Après, on commence par, la danse, voilà. On fait du solfège, c'est-à-dire, on apprend les notes. Après, on a les claquettes et on termine par... et jeudi matin, du coup, voilà. On a chant, piano et technique vocale. Voilà, et tout se passe bien. Et je m'amuse bien. Surtout que si on aime bien, bah, on fait bien la chose généralement. La passion, parce que ça me passionne, bah, ça me donne envie de faire encore plus d'efforts. Et de quand t'aimes un truc, t'arrives pas toujours du premier coup, donc faut toujours travailler, retravailler, et à la fin t'y arrives.
Et dans votre entourage, comment on écoute ça, cette volonté de vouloir se perfectionner dans un domaine? Est-ce que c'est des échanges que vous avez avec votre famille? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de vous? Est-ce que c'est aussi votre famille qui est comme ça et qui, elle aussi, se met des exigences dans le domaine artistique? Comment vous le vivez, ça, chez vous?
Bah, moi, en fait, ma mère, elle chante très bien, donc... bon, je m'en doute, c'est... Oui, voilà. Ce que je possède, cette chance d'avoir une belle voix, bah, je pense que je l'ai de ma mère. Et du coup, bah, je dirais pas, elle n'est pas stricte avec moi, mais elle m'encourage tout en m'aidant. Elle me dit, tu dois un peu plus lever la voix, tu dois un peu plus baisser la voix. Là, c'est parfait, voilà, elle me donne des bons conseils, tout ça. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà.
Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration?
Qu'est-ce que je peux chanter? La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Bon, alors, je vais pas tout faire, mais voilà. Voilà, petite démonstration. Et voilà, par exemple, elle m'a entraînée sur ça. Pas trop monter la voix, ni trop baisser. Bon, là, j'ai fait quelques erreurs, mais...
Très bien, on refait sur le...
Je m'appelle Sarah Connet, je suis la fondatrice de la maîtrise populaire de l'opéra comique. Le talent, il est partout. Le talent, c'est lui qui choisit où il naît. La grande différence, c'est ce qu'on est capable d'en faire au moment où il faut le développer, le plus tôt possible.
Pourquoi ça? Pourquoi le plus tôt possible?
Parce que même s'il n'y a pas d'âge pour commencer à travailler, je suis persuadée que le plus tôt on rentre dans une certaine forme de discipline, et mieux on maîtrise son art. Et mieux on peut le développer, et plus de temps on a, donc plus de chance on a, en fait.
Alors, il y a de l'exigence, du coup, c'est pas forcément évident de travailler cette exigence avec des enfants. Comment est-ce que vous pratiquez ça? Comment c'est travailler au sein de l'école?
Ben, moi, je dirais que les enfants, en fait, ils aiment être exigeants. J'ai toujours un peu, quand moi j'étais enfant chanteuse, pas trop adhéré au fait que les enfants n'étaient pas capables d'être exigeants ou de travailler longtemps ou de se concentrer. Mais par contre, faut qu'ils le souhaitent, faut qu'ils en aient l'envie. Faut qu'ils soient animés de quelque chose qui les maintienne dans cette exigence. Mais je dirais que c'est à peu près la même chose pour les adultes. Ce qui est difficile, c'est de ne pas coller sur un enfant une envie d'adulte. Un enfant, dès l'instant qu'il a envie de s'engager dans un projet, il s'y engage pleinement.
Qu'est-ce que vous avez appris sur toutes ces années-là par rapport aux enfants et à leur développement dans ce domaine d'excellence? Et qu'est-ce que vous avez changé?
Ce que j'apprends... toujours, c'est justement cette attention à mesurer continuellement, et c'est un exercice difficile, le niveau d'exigence artistique, la capacité de l'enfant à réagir à ce niveau d'exigence, puisqu'en fait, ils ne sont pas tous aussi alertes à la pression les uns que les autres, et de mesurer son développement en cours, et c'est toujours délicat, c'est assez fragile, et en fait, c'est un exercice complexe et qui peut parfois être déstabilisant, de se dire « Ah, là, peut-être que je vais trop loin ». C'est un apprentissage que j'ai fait sur le temps long, moi aussi, et que j'espère continuer à faire. C'est sûr que les méthodes pédagogiques évoluent. Je pense qu'on fait peut-être un peu plus attention aux enfants. Le travail des enfants, des mineurs est très encadré aujourd'hui, et tant mieux. Mais de la même manière que pour un athlète, l'entraînement, il est parfois difficile. Et c'est ce niveau de difficulté qu'il faut mesurer quand on est l'entraîneur.
Consciente que le concours d'entrée à la maîtrise populaire s'adresse à un public privilégié, l'école réalise désormais des tournées de recrutement en Île-de-France pour détecter des talents là où ils se trouvent. Poursuivant ce même objectif de mixité sociale, une autre école extrêmement sélective, la FEMIS, tente d'ouvrir le milieu du cinéma réputé très fermé. L'école forme à tous les métiers qui permettent de créer un film. Scénariste, réalisateur, producteur, décorateur. Chaque année, 1800 candidats tentent leur chance pour 40 places seulement. Laurent Moissonnier chapeaute le concours d'entrée. Depuis son arrivée en 2017, il tente d'atténuer une certaine reproduction sociale.
Ils étaient très majoritairement de la fac, très majoritairement de la fac de cinéma quand même. Bonne moitié région parisienne et l'autre moitié non francilien, on va dire. Milieux sociaux à deux tiers, trois quarts favorisés. Donc ça c'est le constat un peu qui n'allait pas aussi loin que le cliché qu'on peut avoir sur parfois la FEMIS, école un peu élitiste, parisienne, cinéma d'auteur un peu nombriliste, ça c'est le cliché. On n'en était pas là. Mais depuis, alors les leviers sur lesquels on a appuyé pour diversifier encore plus, on va dire, c'était de se pencher sur les gens qui les recrutent, les gens qui vont choisir, qui eux-mêmes ont leur propre regard, leur subjectivité. Et donc, on a beaucoup féminisé, on a rajeuni, on a changé le rapport de correcteur entre nos anciens étudiants et des gens de l'extérieur. On va dire qu'on se limite à peut-être 20-25% de la FEMIS, et pas beaucoup plus, et sinon des gens qui connaissent pas l'école ou qui sont un peu éloignés de ce milieu-là. On a aussi mixé les professions des gens qui les évaluaient. Avant, on va dire que les réalisateurs recrutaient des aspirants réalisateurs. En image, c'était des chefs-op qui recrutaient de futurs chefs-op. Là, on mélange les métiers. On peut mettre des artistes, des plasticiens en image, c'est intéressant. Avec des réalisateurs, on peut aussi mettre un correcteur qui est assistant réalisateur, qui va avoir un autre regard.
Quand vous échangez avec les personnalités du jury, est-ce qu'il y a un échange justement sur le fait de pas reproduire et d'aller chercher des personnes qui vont être différentes de celles côtoyées actuellement dans le milieu du cinéma?
Au moment où on recrute les jurys, déjà on recrute des personnalités qui nous semblent ouvertes à ce discours-là. Après, chacun apporte sa subjectivité. Au total, ils sont 7. Donc c'est 7 subjectivités rassemblées, mais normalement, collégialement, les décisions, elles doivent être un peu moins subjectives. Après, eux-mêmes essayent de ne pas reproduire peut-être ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont subi dans leur quotidien. Après, il ne faut pas tomber dans un tropisme non plus trop radical. On n'a pas de quotas, on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'objectifs. En général, les promotions, elles ressemblent surtout aux membres du jury. Il y a quand même une couleur, et il reste une subjectivité malgré tout. Et puis c'est aussi une école d'art, donc voilà, on évalue des travaux, il y a énormément d'épreuves. Il y a des notes sur 20, il y a des moyennes mathématiques, mais au final, on évalue quelque chose de subjectif, il reste une part de subjectivité.
Est-ce que vous avez un exemple de personnalité de jury que vous avez choisi justement pour cette caractéristique-là?
Par exemple, la promotion qui a été recrutée par Nadav Lapid, qui est un réalisateur israélien avec une très forte personnalité, une très grande exigence, elle ne va pas ressembler à la promotion d'un autre réalisateur ou d'une autre réalisatrice qui est dans un autre univers. Mais quand ces gens-là vont se rencontrer ensemble, ça va faire des étincelles et on espère qu'ils vont faire des beaux films qui peuvent bouger le monde, quoi.
Au beau milieu du bois de Vincennes, l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, a repris le travail depuis les Jeux Olympiques de Paris. Cet été, le judo a particulièrement brillé en rapportant à la France le plus grand nombre de médailles. C'est sur ce tatami que les légendes du judo ont été formées.
Le judo, on fait tomber. C'est quand on fait chuter et qui tombe, on va dire, qui tombe bien sur le dos. Je mobilise toutes mes qualités à un moment donné avec la volonté d'aller faire tomber sur le dos avec force et vitesse quelqu'un, mon adversaire. Et donc, en fait, c'est ce qu'on doit chercher et on doit apprendre. Si vous avez vu les Jeux Olympiques, on va parler de Teddy Riner avec le Géorgien, il y avait Hippon. Et c'était voilà, net et sans bavure. C'est un peu. Mais là, il tombe sur le côté, il n'y a pas Hippon. Et donc, c'est ça à corriger. Et donc, il faut que les athlètes, là, ils sont jeunes, il faut qu'ils en prennent conscience et aillent chercher le Hippon. Voilà, là, ça valide. Amine Abdelatif, la responsable du pôle France Judo à l'INSEP.
Depuis combien de temps ?
Depuis 3 ans maintenant.
Et Bastien Puget, je suis DTN adjoint et directeur de la performance au sein de la Fédération Française de Judo, et ce depuis 3 ans. Pour nous, l'INSEP, c'est vraiment un écrin. Toutes les conditions sont réunies pour que ça marche. Et en plus de ça, il y a un côté historique et culturel à l'INSEP. Les équipes de France s'y entraînent depuis peut-être les années 60 ou 70, dans ce même bâtiment, le bâtiment Marie-Thérèse Ekiem. Et donc toutes les générations de champions sont passées à l'INSEP. On a d'ailleurs tous les champions du monde qui ont leur portrait accroché sur les murs du dojo et qui sont visibles à chaque entraînement. Et c'est un peu en quelque sorte un symbole et l'objectif à atteindre pour les judokas qui s'y entraînent quotidiennement.
Le judo est une des disciplines sportives en France qui réussit le mieux. Qu'est-ce qui explique cette réussite ?
Alors d'abord, je dirais qu'on a une fédération qui est très structurée. On est la troisième ou quatrième fédération en termes de licences. On a plus de 500 000 licenciés. On vise d'atteindre les 600 000 à la fin de l'année. Il y a ce qu'on appelle un maillage territorial. Et au sein de chaque région, il y a une structure fédérale d'accession au haut niveau qu'on appelle soit les pôles espoirs, soit les pôles France. En tout cas, c'est des structures toujours pyramidales. Puis, en bout de course, pour les meilleurs, ceux qui auront été repérés, détectés, le passage à l'INSEP. Mais en tout cas, ce maillage, il nous permet de brasser très large et donc d'offrir à nos pratiquants toutes les chances pour arriver au niveau.
Et ce maillage, il permet d'aller chercher les talents partout où ils sont, parce que sinon, peut-être qu'on n'arriverait pas à les révéler et à les faire émerger.
Alors tout à fait, les judokas viennent de tout le territoire. Avant d'être des champions, ça a été des petits judokas dans des clubs, dans des petits clubs formateurs qui font très bien leur travail. Ensuite, ces clubs-là ont gardé le lien avec leurs athlètes. D'ailleurs, nos athlètes ont souvent des liens avec leurs professeurs d'origine, mais ils sont passés dans la structure, en pôle espoir, en pôle France. Et ces gens-là, ils ont contribué à faire éclore les talents. Et le but pour nous, c'est bien entendu de former des champions, mais également les judokas de demain, les hommes et les femmes de demain. Donc il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour les faire évoluer dans la vie, parce que le haut niveau, c'est une des finalités, mais c'est pas la fin en soi. Voilà, on peut s'épanouir en judo de différentes manières.
Est-ce que vous avez un exemple d'un ou une champion, championne qui vous auriez pas forcément perçu tout de suite chez cette personne que ça allait éclore, ou à contrario, est-ce que vous vous rendez compte directement quand des jeunes arrivent, vous dites celui-là c'est sûr, ce sera un grand champion ou ce sera une grande championne?
Alors, la deuxième partie de la question, elle est beaucoup plus facile, en tout cas, à répondre. Il y a des gens, quand on les voit, ça sonne comme une évidence, et il n'y a même pas à être un savant fou pour savoir que ça va certainement le faire. Je sais que, par exemple, le cas le plus évident, c'est Teddy Riner, qui a été repéré à l'âge de 14-15 ans. Il a été intégré à l'INSEP, il était encore cadet. C'était très rare à l'époque de prendre des cadets à l'INSEP, et il est venu. Alors pourtant c'était un gabarit hors norme, mais c'était encore un bébé, et lui tout de suite tous les voyants étaient au vert et tout le monde se disait que ça allait le faire. Et après, une fois qu'on a dit ça, tout n'est pas fait, tout reste à faire. Il a fallu l'accompagner, il a fallu mettre en place une progressivité, et les gens qu'il avait en charge à l'époque ont été, je pense, très intelligents. Et lui aussi, lui, il a su très vite s'entourer d'une psychologue qu'il a vraiment accompagné. Il a eu l'entourage familial compte énormément. C'est quelqu'un qui a été très bien suivi par sa famille, par ses parents. Donc ça, c'est le facteur environnemental, il est primordial. Il n'y a pas de chemin établi, tout le monde peut s'en sortir, quelle que soit son histoire, mais c'est vrai que plus on met des voyants au vert, plus on a de chances d'y arriver. Et quand on a des pépites qui arrivent comme ça, qui crèvent l'écran, oui, c'est ça. Alors parfois, il y a des erreurs de parcours, certains, des blessures, ou même parfois une baisse de motivation. Parfois, certains s'aperçoivent que ce n'est pas vraiment la route qu'ils ont envie de suivre. Il n'y a pas de vérité toute tracée. Par contre, des gens qui ont donné pas forcément beaucoup de chances d'y arriver, il y a des exemples de qui on pourrait parler, Amina.
Moi, Émilie Andéol.
Oui, voilà, on a.
Émilie Andéol, elle a eu des podiums mondiaux européens. Elle arrive aux Jeux, elle fait partie des outsiders et elle termine championne olympique. dans une carrière, c'est le Graal, hein, c'est le top du top. Et elle y est parvenue et on ne s'attendait pas. Et donc, en fait, c'est pas que ça remet en cause un modèle, mais ça montre que chacun a son parcours, en fait. Et que l'entraîneur et tout ce qui, la fédération et toutes les personnes autour doivent vraiment individualiser le parcours pour essayer d'arriver à obtenir le meilleur de la personne. Émilie Andel, elle a montré ça. C'est-à-dire qu'il y avait toute une équipe derrière elle. Le « j'y arrive tout seul, je n'y crois pas ». Et qu'il y a toute une équipe derrière qui pousse. Et je pense, hein, en tout cas je le vois comme ça, qu'elle s'est servie de cette force. On l'a poussée, on l'a aidée. Et elle a montré de l'intelligence. Voilà, c'est l'intelligence du champion. Et elle l'a utilisée correctement et elle y est arrivée. Et donc voilà, là on voit Teddy Riner. Alors la comparaison est rude. Teddy Riner, il a des qualités exceptionnelles et ça sautait aux yeux. Émilie Andéol, ça ne sautait pas aux yeux, ses qualités exceptionnelles.
Deux parcours différents.
Voilà, deux parcours différents et ils ont réussi à tous les deux à être champions olympiques à Rio. Voilà.
Après, les exemples, ils peuvent être multiples et certains arrivent au titre suprême et d'autres arrivent non seulement à des médailles même internationales, européennes. Et on a des exemples comme ça. C'est aussi le but de la fédération de former ces gens-là parce que c'est très facile d'accompagner les pépites, comme on dit, ceux qui cochent toutes les cases et qui ont un potentiel énorme. Mais le but aussi pour nous, parce qu'on n'a pas que des athlètes comme ça, c'est d'accompagner et de former et d'amener au plus haut niveau tous les autres athlètes qui sont athlètes de haut niveau mais qui n'ont pas forcément toutes les prédispositions pour y arriver. Et puis ce qui est bien en judo, notamment ce qui fait la différence avec les autres sports collectifs, et c'est la beauté du sport, c'est qu'en fait, nous, tout le monde a sa chance, en fait. Il y a des championnats, ça peut commencer par un championnat régional, bah, si vous êtes le meilleur de votre région, c'est des combats arbitrés, c'est pas quelqu'un qui va décider que. Parfois, dans les sports collectifs, bah, c'est des choix de l'entraîneur qui décide de sélectionner quelqu'un, de le faire jouer ou pas, donc on n'a même pas la chance de pouvoir s'exprimer. En judo, on est seul sur le tapis, seul avec ses armes, et vous allez vous qualifier au championnat national, et après les meilleurs, ils vont partir en tour international, les meilleurs vont être qualifiés, donc on a tout le temps sa chance, en fait. Il n'y a rien qui est écrit. Et c'est ce qui fait que bah, tout le monde a sa chance, au final.
Ouais. Okay.
Avant Teddy Riner, une autre légende du judo tricolore forçait l'admiration. David Douillet, quadruple champion du monde dans les années 90, double champion olympique à Atlanta, puis à Sydney. Une carrière sportive suivie d'une réussite entrepreneuriale en passant par la politique et le ministère des Sports. 44 ans après ses premiers pas sur un tatami, il se remémore la découverte d'une passion qui a façonné sa vie.
Cette envie de faire du judo m'a été suscitée par mes voisins à l'époque. J'habitais un petit village en Seine-Maritime. Et mes voisins venaient en vacances parce qu'ils avaient une maison de famille juste à côté de chez moi. Et il se trouve que Alice et Henri, Tsukara, pour pas les citer, on se retrouvait à chaque vacances, parce qu'ils venaient à chaque vacances. Et ils avaient la particularité d'être biculturels. Ils étaient franco-japonais. Leur papa était japonais. Malheureusement, leur papa était décédé lorsqu'ils étaient petits. Mais Alice et Henri faisaient du judo, ils étaient parisiens. Et j'ai été influencé par eux très largement, puisqu'ils m'ont fait découvrir la culture japonaise, leur côté japonais, cette culture-là, et à la fois la pratique du judo, que je ne faisais pas, il n'y avait pas de club. Et j'avais envie de faire ça, de ce qu'ils m'avaient expliqué, des techniques de combat venant d'un pays lointain, un peu secrète, un peu, voilà. Enfin, c'était un peu mon fantasme de l'époque. Ce qui fait que dès qu'il y a eu un club de judo qui s'est installé pas très loin de là où j'habitais, à 15 km, eh ben, tout de suite j'y ai adhéré à l'âge de 11 ans. Il a fallu que j'attende un peu et ça a été le coup de foudre. Voilà, en fait, c'est une rencontre. Peut-être que ces quelques années de frustration de ne pas pouvoir faire la même chose qu'eux ont fait que dès que j'ai mis les pieds sur un tatami, ça a été un coup de foudre immédiat. J'ai adoré ça. Voilà. Mais on était encore bien loin, j'étais encore bien loin de la compétition. C'était simplement la pratique qui me plaisait et la découverte de cet univers dans le monde des sports de combat. Le duel aussi me fascinait beaucoup. La symbolique du duel, deux personnes face à face, avec les mêmes armes, avec le même bagage technique, avec le même niveau, s'affrontant dans une espèce de partie d'échec physique. Et c'est ça le judo en réalité, une partie d'échec physique, m'a toujours subjugué. Voilà. Et quand on a ce coup de foudre-là, je dirais que le travail qu'on doit mettre en place, les heures d'entraînement, l'investissement, l'énergie qu'on met dans ce qu'on fait là, dans ce qui nous passionne, c'est pas du tout contraignant, au contraire. On s'en rend pas compte, parce qu'on est complètement investi. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de l'expliquer et le dire quand je fais des conférences ou quand je rencontre des jeunes. Ou je leur explique que si vous faites quelque chose qui vous correspond, ou alors parce que vous avez un coup de foudre, ou alors parce que ça correspond à votre colonne vertébrale personnelle, eh bien, les premiers signes de savoir que vous êtes à la bonne place, c'est justement que la charge, ou en tout cas le revers de la médaille qui est lourd pour certains, ne l'est pas pour vous. Voilà. C'est-à-dire que les difficultés à s'entraîner, les difficultés du temps, les douleurs, la sueur, souffrir, etc., etc., tout ça passe vraiment au second plan. Ce qui prime, c'est la réussite, l'efficacité, la progression.
Vous, à titre individuel, si vous n'aviez pas fait cette rencontre dans votre jeunesse, vous n'auriez jamais découvert le judo.
Si je n'avais pas fait cette rencontre, si je n'étais pas rentré dans un club de judo un jour, je n'aurais jamais eu cette vie. Je n'aurais jamais été construit tel que je suis construit aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis parfait, mais très sincèrement, j'ai eu une vie extraordinaire. Et je ne vous parle même pas de la compétition. Hein. Je ne vous parle même pas des titres mondiaux, olympiques, etc. Je ne vous parle même pas de ça. Le judo, comme tous mes copains, même ceux qui n'ont rien gagné de leur vie, le judo, la pratique du sport, le sport m'a structuré pour toute ma vie et m'a influencé pour toute ma vie. Et si aujourd'hui je suis heureux et épanoui dans tous mes projets entrepreneuriaux et même personnels, c'est grâce à cette structuration.
Et puis comme vous le disiez, on peut se révéler uniquement si on rencontre la discipline qui nous plaît sincèrement, profondément. Si on force un enfant à faire quelque chose qui ne lui plaît pas, ça ne fonctionnera pas.
Ça ne fonctionnera pas, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut offrir à tous nos gamines et nos gamins un éventail le plus large possible d'activités sportives. Et je mets la culture dedans. Hein. Pour moi, il n'y a pas de différence entre un gamin qui se passionne pour le judo et un gamin qui se passionne pour la musique, le chant, la peinture ou ce que vous voulez. Hein. Le talent, ce n'est pas un truc qui est subjectif, hein. Le talent, ça se construit. Le talent, ça se découvre. Le talent, il y a des gens, malheureusement, qui passent à côté de leur vie parce qu'ils n'ont jamais découvert leur talent. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a tous quelque part du talent ou une forme de talent, quel qu'il soit. Il faut simplement le chercher, le découvrir, le dégrossir et le tailler. Voilà, il faut tailler le diamant qu'on a en nous. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame.
La Fabrique du Talent, c'était un reportage d'Azaïs Perronin avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour commenter et prolonger ce reportage, nous sommes avec le sociologue Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France. Alors on aime cette notion de talent, ces modèles, ces personnalités hors normes qui nous font rêver. Est-ce que c'est parce que les regarder nous encourage à nous dépasser? Qu'est-ce qu'ils nous apportent selon vous?
D'abord, il y a une dimension d'admiration. On aime admirer des individus qui ne sont pas tellement éloignés de nous qu'on ne pourrait pas se comparer à eux ou ne pas se dire « je n'y arriverai jamais ». Donc, il y a un sentiment de proximité et d'incitation à essayer d'y aller. Nietzsche dit quelque part « le talent, c'est assez proche de nous, donc ça nous incite. Le génie, c'est tellement loin de nous qu'on ne peut même pas être jaloux d'un génie parce que c'est trop loin ». Donc, il y a cette dimension-là et il y a cette dimension de... adhérer à l'idée que exprimer quelque chose de soi-même qu'on porte, mais dont on ne sait même pas qu'on le porte, c'est une aventure avec une incertitude, évidemment, sur ce qui va arriver. Mais le travail qui est tellement présent dans tout le reportage qui a été passé, c'est cette idée que si vous ne faites pas d'efforts suffisants, vous ne savez même pas de quoi vous êtes capable. Et ça, c'est... Évidemment, il y a des métiers qui le permettent parce qu'ils sont typiquement des métiers, comme je dis, non routiniers. Vous ne faites pas la même chose du jour au lendemain. Il y a une dimension de répétition. Mais quand on parle des nageurs comme Léo Marchand ou des sportifs, ils répètent beaucoup les choses, mais en même temps, ils corrigent sans arrêt des gestes pour améliorer, pour progresser, pour se comparer aux autres. Tandis qu'il y a d'autres métiers où vous savez d'avance tout ce qui va arriver, et ce sont des métiers répétitifs, routiniers, et cela, vous perdez votre vie à la gagner. Tandis que là, vous devez mettre beaucoup d'énergie et d'efforts, comme toujours.
Alors effectivement, ça ressort de tous les témoignages, il y a ce travail indispensable, mais le travail seul ne permet pas forcément de se distinguer. D'ailleurs, encore faut-il avoir appris à travailler, acquis certaines méthodes, donc on en revient à l'importance de l'environnement.
Bien sûr, c'est sans arrêt le problème. La question de l'inné et de l'acquis, elle a été très débattue depuis le 19e siècle et même avant. Au 18e siècle, il y avait le rêve de considérer l'individu comme une cire vierge et l'environnement ferait tout. C'était Helvétius qui avait dit, voilà, je vais transformer n'importe quel individu en un talent. Bon, ça c'était la version 100% de social et d'environnemental. L'autre version, c'était, ah, il y a une hérédité de l'intelligence, c'était Galton. Et subtilement, un sociologue comme Durkheim, mais d'autres aussi, ont dit non, la vérité est dans l'interaction. Mais elle est complexe à déchiffrer, et voilà. Et c'est exactement le problème. Quand les Anglais ont voulu gagner beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques de Londres, ils ont réuni des tas de scientifiques pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait des médailles. Et c'était pas des bras cassés, hein, ouais. C'était des psychologues, des généticiens, sociologues peut-être, des biologistes, des physiologistes. Et au bout du compte, on essayait d'expliquer, il y a tant de ceci, tant de cela, mais c'est une composition de facteurs tellement complexe qu'il y a certainement des conditions nécessaires mais qui ne sont jamais suffisantes. Et il y a des conditions, évidemment, chacun est détenteur d'un patrimoine génétique. Si vous voulez jouer au basket et que vous n'avez pas la taille suffisante, bon, ben, ça ne sera pas vraiment le cas d'essayer ou la possibilité d'essayer, encore qu'il peut y avoir des génies moins grands que d'autres. Mais enfin, voilà. Mais il y a d'autres domaines où la révélation de ces qualités-là de départ ne se fait pas tout de suite, elle est très progressive. Donc il y a un agenda de jeu entre le patrimoine génétique dont vous avez à disposition et tous les facteurs environnementaux qui ne provoquent pas les mêmes révélations de ceux dont vous êtes porteur dans les différents domaines. Il y a des domaines où il faut commencer extrêmement tôt parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement.
Alors effectivement, on entend dans le domaine de la musique que pour parvenir à l'excellence, il faut commencer vraiment tôt. Oui. Mais c'est pas vrai dans tous les domaines.
Non, mais c'est vrai dans la musique. Dans ma lointaine jeunesse, j'ai fait une enquête sur les compositeurs de musique et c'était le discours qu'ils tenaient tous. C'était « Je suis né sous un piano, le piano de ma maman. J'écoutais ma maman donner des leçons de piano à ses élèves et c'est comme ça que j'ai eu une fascination pour la musique. » Et notez les deux, la précocité et la maman. Il faut un inducteur de passion et quelqu'un qui est à la fois rassurant et exigeant. C'est très important. C'est ce couple-là qui est décisif. C'est comme dans toute forme d'apprentissage. Il vous faut vous rassurer, mais il faut aussi être mis au défi d'avancer, etc., de ne pas se décourager. Ce qui fait que quand on cherche à comprendre mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de talent, je dis toujours, pour une définition simple, c'est faire la différence. Bon, dans un milieu... Mais ensuite, quels sont les ingrédients? Eh bien, il y en a beaucoup. La persévérance, l'imagination, l'aptitude à l'effort, la maturation psychologique qui est très importante, la résilience, affronter l'échec. Ce sont des domaines qui sont très, très exigeants. On a beaucoup parlé à la fois du haut du palmarès, David Douillet, mais on a aussi parlé des chanteurs de la maîtrise. Autrement dit, on est dans tous les compartiments de réalisation de soi, ceux qui vous exposent au plus grand succès, mais ceux aussi qui vous exposent tout simplement au plaisir d'exercer une activité qui vous gratifie. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand on dit le talent, c'est juste le palmarès, les talent shows qui en font leur régal, Top Chef, The Voice et compagnie. Je ne veux que le haut du palmarès parce que la compétition en elle-même est un sport et un spectacle. Vous masquez en fait le fait que les individus ont besoin de se sentir propulsés dans une activité où ils réalisent quelque chose d'eux-mêmes. Et ensuite vient le pivotement. Qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur? Et il y a à la fois une justice et une injustice. L'injustice, c'est que le hasard se mêle de beaucoup de choses, évidemment. Ça revient sans arrêt. Et tout le monde a une histoire dans sa vie de hasard, de rencontres extraordinaires.
Oui, mais alors, hasard et rencontre, d'accord, mais ces rencontres qui ouvrent de nouveaux horizons, on entendait effectivement David Douillet et ses voisins, ça suppose quand même d'être à l'écoute, je pense à Philippine qui est très attentive à ce que lui disent ses coachs. Ça suppose aussi d'oser saisir les occasions qui se présentent. Ce sont des compétences qui ne sont pas données à tout le monde.
Vous savez que la parabole du talent est la matrice originelle dans l'évangile de Saint Matthieu et la matrice de cet argument et de cette sémantique du talent. Et dans cette parabole du talent, c'est l'histoire d'un maître qui part et qui confie à ses serviteurs, à l'un 5 talents, à l'autre 3 talents, 2 talents et au troisième 1 talent. Et il dit « faites-en quelque chose ». il revient 6 mois plus tard et les deux premiers ont fait quelque chose de leur talent. Autrement dit, il leur a donné quelque chose, mais à eux d'agir et de le faire fructifier. Le troisième a dit non, non, moi je l'ai enfoui, je ne voulais rien en faire. Et le maître le chasse en disant tu n'es pas digne du royaume de Dieu, toi qui n'as rien fait de ton talent. Autrement dit, si vous avez la capacité de découvrir en vous ou de recevoir là, par un coup de hasard, de chance, etc., une information qui vous dit quelque chose sur vos capacités et vos aptitudes, c'est à vous ensuite de la saisir. Évidemment, c'est toujours la même histoire. La chance sourit aux audacieux. La parabole du talent, c'est aussi une parabole de la prise de risque. Il faut une prise de risque, il faut tolérer le risque et l'incertitude et en apprendre quelque chose. Si vous n'en faites rien, effectivement, vous dites, bon, je suis passé à côté de ma vie, j'aurais peut-être pu si ceci, si cela, voilà.
Alors, ce sont de multiples facteurs qui vont contribuer au développement d'un talent, mais ce que disait Sama Karaki tout à l'heure, c'est que le facteur qui a le plus de poids, c'est le milieu socio-économique.
Oui, c'est vrai que puisque vous êtes né dans un milieu, ça c'est clair et net, les compétences qu'on acquiert très tôt, on est câblé immédiatement et la famille joue un rôle énorme dans l'éducation, mais aussi dans beaucoup de vies où on apprend quelque chose, et les arts, les sports, les sciences, c'est la même chose, on apprend. Vous ne passez que 15% de votre temps dans un milieu comme le milieu scolaire ou le milieu où on est formé. Le reste, c'est la famille pendant de très longues années. Et donc la famille sert à constituer cette enveloppe de à la fois exigence, gratification, reconnaissance, mais demande. Et elle a aussi ses propres injustices. Il y a des travaux qui montrent que les premiers de la fratrie sont parfois plus favorisés que les seconds, alors qu'on pourrait se dire le patrimoine génétique est le même. Eh bien non, il y a des différences au sein de la famille. C'est injuste. Greco Casazzu parlait d'une certaine manière de la tribu familiale. Peut-être que tous n'ont pas réussi au même niveau. Donc la famille joue, mais il y a aussi des... Il ne faut pas indexer la famille strictement seulement sur le niveau social de la famille, c'est-à-dire la famille de gens aisés, etc. etc. Un de mes doctorants, parce que Pascal Préra a fait une thèse sur les footballeurs qui vont faire carrière dans les ligues anglaises de football. Elles sont plus nombreuses qu'en France. C'était des enfants des banlieues, vraiment pas très favorisés. Mais la famille était derrière, la famille les équipait. Et ces gamins, ils doivent avoir à 12 ou 13 ans, quand ils sont lancés dans le début de carrière, dans des clubs, des centres d'apprentissage, de formation, etc., ils doivent se constituer une maturité psychologique. Et la famille est à la fois là pour les équiper et pour être une sorte de buffer, de tampons pour absorber ces choses-là et pour continuer à les stimuler. Ça fait des différences gigantesques.
Merci Pierre-Michel Menger. Le grand reportage La Fabrique du Talent était signé Azaïs Perona et réalisé par Annie Bro, et c'est Ruben Camarzine qui était à la technique. Merci également à la documentation d'actualité. Vous pouvez réécouter et partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.